Tendance Ouest.
Tendance Ouest.
Écoutez les chroniques spirituelles de frère Paul Adrien.
Bonjour à vous et bienvenue dans cette chronique spirituelle. Je suis le frère Paul Adrien d'Ardemar et aujourd'hui, je vous propose de parler de quelques rites de purification, ce qui nous introduira de manière subtile et agréable à l'évangile du jour qui lui parlera de baptême. Commençons par le mikvé. Oui, vous avez bien entendu, mikvé, M-I-K-V-E, qui est un bain rituel fondamental dans le judaïsme et peut-être un des ancêtres du baptême. Le mikvé est un mot qui vient du mot hébreu « réservoir ». C'est un réservoir dans lequel il y a de l'eau naturelle, souvent dans un bassin ou une piscine construite exprès pour cet usage, une sorte de baignoire spéciale purification, le chic du chic étant d'avoir de l'eau courante qui vient la remplir. Le mikvé est utilisé pour se purifier spirituellement et physiquement. Ce mikvé est essentiel dans plusieurs contextes. Par exemple, avant le mariage, une femme juive doit se baigner dans un mikvé après qu'elle a eu ses règles pour retrouver un état de pureté rituelle, ce qui lui permet de vivre avec son mari dans la pureté. Mais c'est pas tout. Lorsqu'un non-juif se convertit au judaïsme, il doit aussi se tremper dans une mikvé. C'est un geste qui symbolise l'entrée dans la communauté juive. Alors, il y a aussi d'autres usages pour le mikvé. Par exemple, si jamais vous devez toucher un cadavre parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à côté de vous, vous vous purifiez en vous plongeant dans le mikvé. On a retrouvé de tels mikvés en faisant des fouilles à Jérusalem. Et même au temps de Jésus, la construction de mikvés dans les maisons était un indice important du statut social de la personne dont vous veniez de retrouver la maison. Nous continuons avec l'islam, un de ses rites de purification les plus importants, le roulch. J'espère que je le prononce bien, mais je pense. G-H-U-S-L-S. Alors, quand est-ce que vous le pratiquez? Vous le pratiquez, par exemple, après les relations sexuelles, ou bien encore après les menstruations ou les saignements, post-nataux, ou encore avant de pratiquer le Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque, l'un des cinq grands piliers de l'islam, ou encore avant la prière du vendredi. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé, c'est considéré comme une tradition honorable de faire cette ablution avant la prière du vendredi. Ce qui vous rappelle quand même qu'il y a des liens avec la mikvé que nous venons de voir juste avant parce que la perte de sang était considérée comme une souillure au sens où l'impureté, ça veut dire qu'il y a un déficit de vie. Bon, pour vous purifier, vous commencez d'abord par dire votre intention devant Dieu, c'est-à-dire votre intention de vous purifier et de trouver l'agrément d'Allah. Ensuite, lavage complet des mains et des parties intimes pour éliminer toute impureté physique. Puis, lavage de la bouche et des narines, et enfin, aspersion d'eau sur tout le corps. Et là, il faut faire attention à ce qu'aucune partie du corps ne soit omise. Il ne s'agit pas simplement, évidemment, d'hygiène corporelle, ça symbolise le renouveau spirituel et le nettoyage de l'âme. Alors celui-là, c'est peut-être mon préféré, parce que ça nous fait voyager du côté du sikhisme. Le sikhisme, c'est une religion du 15e siècle dans le sous-continent indien. Et le grand rituel de purification s'appelle le Amrit Sanskar, et qui symbolise l'engagement profond d'un individu dans la voie spirituelle sikh. Alors Amrit, nectar ou élixir, et Sanskar, ça fait référence ici à un rituel ou à un rite de passage. Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord la préparation spirituelle, ça veut dire que l'individu, avant de recevoir l'Amrit, doit être en état de pureté, pureté physique, pureté spirituelle, on l'encourage à mener une vie vertueuse et à méditer, à se consacrer à la prière. Ensuite, il consomme de l'amrit. L'amrit, c'est une eau sucrée et une eau sacrée, et qui symbolise la purification de l'âme et l'engagement à vivre selon les enseignements du gourou Granth Sahib, qui est le texte sacré du sikhisme. Et là, le fait de boire, ça montre la transformation spirituelle, le fait que vous abreuvez, que ça vous nourrit et que ça vous renouvelle de l'intérieur. Et après, vous avez le baptême dans la foi sikh. Après avoir bu l'amrit, le nouvel initié est appelé à prendre un nouveau nom spirituel. C'est ce nouveau nom qui va le lier directement à la communauté ou à l'enseignement des gourous. Donc, c'est généralement un nom qui est composé de Singh pour les hommes, S-I-N-G-H, vous avez peut-être vu ça, ou alors de Kaur, K-U-R pour les femmes, ce qui signifie respectivement lion et princesse, qui symbolise la force spirituelle et l'égalité entre les hommes et les femmes. Et maintenant, après avoir parlé de différents types de rituels de purification qui pouvaient exister dans diverses religions, je vous propose, avec le texte du jour, de nous tourner cette fois-ci vers le baptême. Nous lisons l'évangile et ensuite nous le commentons. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit, l'Esprit-Saint sous une apparence corporelle comme une colombe descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Aujourd'hui, en commentaire de l'Évangile, je vous propose de parler du baptême. Vous me direz, ce n'est pas très original. Mais plus précisément, nous allons parler des rites annexes au baptême. Le baptême, tout le monde connaît. On plonge dans l'eau en disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Rite d'adoption, rite de purification, rite de rémission des péchés, rite de don de la grâce, enfin bref... Un rite extrêmement profond. Mais les rites annexes, ben, ça mérite aussi qu'on en parle. Et ça, pour le coup, les gens sont beaucoup moins au courant de ce qu'il se joue à côté du baptême. C'est-à-dire que le baptême est d'une telle profondeur que pour en manifester toute la richesse, on a multiplié à côté les rites qui expriment ce qui se passe lors du baptême. Par exemple, lors d'un baptême, normalement, ça commence par le rite d'entrée. Le baptême, ça commence à l'extérieur de l'église et on ouvre de manière solennelle les portes pour le futur baptisé pour lui dire que ma maison, c'est ta maison. Donc le prêtre, parfois le diacre, se tient à l'entrée de l'église pour accueillir l'enfant ou l'adulte à baptiser. C'est pas seulement symbolique, ça marque un passage. On franchit un seuil et on vous fait les honneurs de la maison. Ça veut dire que maintenant, cette maison devient la maison de Dieu et que vous faites partie de la famille. Ensuite, deuxième signe, vous avez le signe de la croix. Et on est toujours avant le baptême. Le signe de, on appelle ça même la signation. Donc c'est le prêtre qui trace la croix sur le front du baptisé de manière solennelle. Il le fait en silence parce qu'il ne va pas dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit parce que ça c'est pour après pour le baptême. Donc le prêtre trace la croix sur le front du baptisé, ce qui symbolise l'appartenance du baptisé au Christ. Ce qui vous renvoie en fait au livre de l'Apocalypse. Il y a une prophétie d'Ézéchiel avec l'ange qui vient vous marquer du taureau sur le front. Un geste simple mais profondément significatif qui va dire que vous allez être marqué, que vous allez appartenir à Jésus. Très bien, ensuite on continue, nous avons la proclamation de la parole de Dieu. Alors ça, c'est généralement plus connu, ça sert à rien de trop en parler. Enfin, on va prendre un passage de l'évangile que l'on va expliquer et que l'on va actualiser. Parce que la prédication de l'évangile, ça s'est pas passé simplement il y a 2000 ans, mais c'est aujourd'hui encore qu'elle continue d'être proclamée et que le Christ qui est mort et qui est ressuscité continue de proclamer son évangile à travers nous. Bon, bref, ça c'était avant le baptême. Maintenant, on arrive sur les rites juste avant le baptême. Donc... rite juste avant le baptême. Ça, il n'est pas très connu. Alors généralement, les prêtres n'en parlent pas trop parce que ça fait un peu peur aux parents quand on leur dit qu'on va faire ça sur leur enfant. Mais quand même, ça fait partie de la liturgie pré-baptismale. C'est un exorcisme. Eh oui, il y a un exorcisme. Dans l'ancien rite, d'ailleurs, on mettait même du sel pour chasser le démon parce que le sel, ici, était le symbole de l'éternité. Le sel, c'est ce qui conserve. Enfin bref, ici, l'exorcisme, c'est moins pour chasser le diable. Parce qu'on peut raisonnablement penser quand même que le baptisé qu'on a en face de soi, enfin le futur baptisé, n'est pas possédé par le diable, mais c'est pour montrer quand même que le diable est pas très loin et qu'il rôde, comme dit la Bible, autour de sa proie, comme un lion cherchant à dévorer dans la nuit les âmes qui pourraient s'y perdre. Et avec l'exorcisme, vous avez encore un autre rite, l'onction de l'huile des catéchumènes. Sur la poitrine ou encore sur le front et sur les mains. Et cette fois-ci, l'huile des catéchumènes, ça représente l'huile des lutteurs. Dans l'Antiquité, on mettait de l'huile sur le corps des lutteurs pour qu'ils échappent aux prises de l'adversaire. Donc ça, c'est toujours le symbole du combat spirituel parce que c'est le baptême, tout n'est pas résolu au baptême. Bon, on continue, exorcisme, onction de l'huile des catéchumènes, et vous avez aussi maintenant la bénédiction de l'eau baptismale. Alors la bénédiction de l'eau baptismale, la grande bénédiction, c'est pendant Pâques, la vigile de Pâques. Quand le Christ vient de mourir et de ressusciter, là vous avez la liturgie, ce qu'on appelle la liturgie de l'eau. Et le prêtre va mettre ses mains au-dessus de l'eau et va rappeler toutes les grandes étapes de l'histoire sainte et de dire que l'eau, à chaque fois, y a joué un rôle important. Par exemple, on va parler de la création du monde, où l'eau est le premier élément de la vie. On va parler aussi de la traversée de la mer Rouge par les Hébreux, où l'eau vient engloutir l'armée du Pharaon, symbole du mal. On pourrait encore vous parler de la prophétie d'Ézéchiel qui dit qu'il a vu un torrent d'eau vive jaillir du temple, etc., etc. Ça veut dire là, pour le coup, qu'en bénissant cette eau, l'Église affirme que le baptême n'est pas seulement un geste extérieur, mais qu'il purifie de l'intérieur et qu'il va effacer le péché originel et ouvrir les portes du ciel. Eh bien, avec ça, vous avez les rites avant le baptême. Mais le baptême est tellement riche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On n'a pas encore eu le temps de parler des rites après le baptême. Eh bien ça, ce sera pour un autre évangile. Vous prendrez votre mal en patience. Je vous donne simplement les trois rites après le baptême. Le rite de la lumière, le rite du vêtement blanc et le rite du Saint-Crème. Ce qui est essentiel à travers ça, c'est de vous rappeler que Dieu vous aime et qu'à travers le baptême, non seulement il vous adopte comme son fils, non seulement il vous donne la force de résister au diable, mais en plus il a gravé en vous l'image de Jésus que dorénavant vous porterez tous les jours de votre vie. Vous êtes Christophore, celui qui porte le Christ. Et voilà, c'est la fin de cette chronique spirituelle. Et sait-on jamais, peut-être que les textes d'aujourd'hui vous auront envie de demander le baptême, et ce serait une très bonne idée. En attendant de nous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite à tous un bon dimanche.
Retrouvez le frère Paul Adrien sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitch et Discord.